La première fois que j'ai regardé la télévision, c'était chez moi, puisque mon père avait acheté la télé en 59, il y avait les Perses. C'est une tentative, un essai de, on va dire, de son par la radio, en FM.
Ah oui.
Le spectacle était absolument grandiose, mais c'était en noir et blanc, et moi j'y comprenais rien, bien sûr, parce qu'en 59, j'étais très, très, très petit, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est, qu'un choix d'une culture qui nous était imposée, c'était la culture officielle du général de Gaulle, et ça on peut lui reprocher, mais n'empêche que...
Ah, ça y est.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Gaulle.
N'empêche que, il y a beaucoup de choses qu'on a pu voir au théâtre ce soir, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Ils ont ouvert l'esprit, voilà.
Ouais. Bien sûr. Mmh. Je me rappelle des théâtres ce soir.
Ouais, une culture démocratique, c'était accessible au plus grand nombre. C'est ça qui est intéressant. Et la sémantique, c'est là, effectivement, par ce jeu et par les attitudes, par, comment dire, la complicité, effectivement, des acteurs. Mais on est capable d'avoir cette sensibilité, cette émotion.
Bien
et
sûr.
Moi, j'ai appris beaucoup de choses à travers ça. Mm-hmm. Et j'ai aimé, effectivement, la langue, la sémantique, la finesse de la sémantique. Et oui, mais sauf qu'à un moment donné, il faut trouver les liens, il faut trouver cet intérêt. Et là, je rejoins Jeannot, c'est vrai, peut-être que l'éducation nationale est en partie responsable, mais pas que, mais en partie quand même. Et derrière, les générations à venir, elles ont une autre orientation. Et oui. Peut-être que, bon, c'est comme ça, c'est inévitable. Et tant mieux pour elles, peut-être, je sais pas. Alors, on abandonne effectivement ces riches valeurs ancestrale, peut-être au bénéfice de la technologie moderne qu'il va falloir maîtriser et aller d'autant
alors,
plus
il va falloir la maîtriser, oui, effectivement.
Pour la défense de ces séries télévisées basées sur la télé-réalité, bien souvent, c'est parce que le casting est fait pour le visuel, c'est-à-dire une nana bien roulée. Et puis
et un mec bodybuildé.
Tout à fait. Et puis,
ah oui, bien sûr.
Même s'il n'y a rien dans la tête, c'est pas grave parce qu'on ne leur demande pas... Que ce soit.
on est d'accord. Cela dit, ça nivelle quand même vachement par le bas.
Ça doit être écrit, tous ces trucs-là. C'est pas possible. Je veux dire, moi, c'est tous des acteurs. Ils sont, de ce point de vue,
c'est
admirable.
Ah, tu penses que c'est scénarisé?
Je crois qu'ils sont assez naturels, moi, là.
Je pense qu'ils sont bien.
C'est possible.
Non, je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont castés. Pour justement leur côté un peu décalé, quoi.
Ah ouais.
Vraiment décalé.
Qui peut le plus, peut le moins. Donc celui qui comme vous l'avez fait, vous avez décrit plein de choses. Vous êtes capable de comprendre ce qu'ils disent.
Cela étant, c'est fait pour les vieux cochons comme moi qui regardent la nuit parce que ils ne peuvent pas dormir. Alors
tu regardes et tu tombes sur les rediffs.
Une forme d'expression plastique qui n'est pas désagréable. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il porte le casque, mais il marche plus en casque.
C'est exactement ça. Et on parlait du théâtre ce soir, bien sûr. Et je me souviens aussi qu'il y avait quand même des trucs à la télé à cette époque-là où il y avait quand même un peu de culture. Je me souviens de cette série, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Les Rois Maudits.
Ah oui.
Avec Jean Piat. Moi, je me souviens de cet acteur. Il m'a beaucoup marqué.
Ah oui.
C'était quelque chose qui était quand même très, très pointu, quoi. Et c'était le samedi soir, je me souviens.
Mais là, tu mets le doigt sur un truc vraiment important. La télévision, par exemple. Mais on parlait de la nouvelle technologie, que ça soit les réseaux Internet, etc. En fait, c'est des outils absolument formidable au départ pour se cultiver, apprendre, chercher. Tu vois, ça dépend ce qu'on en fait et comment on trie. Enfin, tu vois, parce que tu peux parler de tous les fake news, toutes les merdes, on va dire, qui sont dans ce réseau. Mais la télévision française, qui est dans tous les foyers, même il y a des fois deux télévisions ou trois ou dans chaque chambre. Franchement, ça serait un outil sublime pour tirer les gens vers le haut. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, je sais pas, la qualité, l'intelligence, la beauté. Enfin, tu vois, c'est des choses.
Mais tu dis ça pourrait. Mais c'est. Tout dépend sur quelle chaîne tu te branches.
Ah oui, c'est sûr.
Ou à 23h ou à minuit, tu vois, les émissions les plus intéressantes.
Tu te branches sur Arte, par exemple, il y a super émissions.
C'est formidable.
Une émission grand public sur la 5 qui s'appelle Échappée Belle.
Oui, bien sûr.
Qui permet de découvrir des endroits, des paysages qu'on ne verra jamais parce que on peut pas y aller.
Ah oui, c'est un peu loin, quelquefois.
Il y va pour nous. Et ils nous font vraiment découvrir à la fois le paysage et le peuple,
ouais,
et les gens qui y habitent.
Non, c'est un outil formidable, peut-être mal utilisé ou pas assez utilisé.
Il y a aussi un rapport financier derrière. Donc derrière, il faut savoir ce qui, capte le plus grand audimat.
Mais je pense qu'on s'est trompé, parce que je pense qu'on pourrait trouver plus d'audimat encore, tu vois. Mais il faudrait inverser les choses et il faut du temps, quoi.
On en revient au temps de cerveau.
Privatiser
le
service public, parce qu'on en entend parler dans les campagnes là. Moi, je suis hyper inquiet parce que là, on va pas vers le plus, si tu veux, de la mission de service public qu'on devrait avoir des grands médias, mais bon,
il sera pas. Non, le service public existera toujours.
J'espère.
Bien sûr, mais évidemment. On continue notre route, les enfants. Route, justement. Route.
Voilà,
l'histoire d'un nouveau départ. On est en phase avec l'actu, hein, après cette pandémie. Pourquoi ne pas entrevoir effectivement un nouveau départ? Alors là, il est question de révolte et de destin. Tu nous dis un petit mot?
Ouais, très vite. Bah, c'est la même équipe qui fait Avare, donc c'est très intéressant parce que d'un côté il y a un test classique, Molière, et de l'autre côté
pourquoi,
c'est
pourquoi Avare? Parce qu'avant c'était de l'Avare.
Oui, mais oui, c'est, mais c'est une adaptation.
Parce que c'est une adaptation et ils ont, voilà, ils jouent à quatre tous les personnages, donc tu vois, c'est d'après l'Avare en fait de Molière. Mais tu as le texte de Molière. Et l'autre texte, Route 1, dont tu parles, Thierry, c'est un texte contemporain de Carole Fréchette, une auteure canadienne. C'est une commande qu'on lui a faite, en fait, pas la compagnie, mais dans un autre projet. Et qui raconte, en gros, très rapidement, une communauté d'hommes et de femmes qui ont des histoires différentes, qui viennent de milieux différents, et qui se retrouvent ensemble pour discuter de l'avenir, comment avancer, comment on fait pour avancer ensemble. Et ça, évidemment, ça parle du collectif, de l'importance du collectif, de l'intérêt général, comment on se retrouve sur des luttes, tu vois, qui peuvent être communes, comment on retrouve notre capacité à s'insurger contre l'injustice parfois et sortir de cette culture individualiste. Enfin, voilà, c'est un très beau texte, c'est un assez coup de poing et c'est un peu comme une manif. Bon, c'est un peu comme une manif sur 80 mètres de route, en fait, de la rue Carnot. Et on retrouve les comédiens qui nous amènent sur 80 mètres. Là, on bouge pas et eux, ils jouent sur toute la longueur de la rue avec des feux de Bengale et en disant leur texte qui est vraiment très fort. Très original comme spectacle.
Voilà, donc ça s'appelle ça Route.
Ça risque de décoiffer, ça.
Ah, ça va décoiffer.
Ouais, un happening, c'est... non, c'est pas ça.
Un happening, oui, on peut comparer.
Non, c'est pas un happening parce qu'il y a vraiment un texte.
Il y a quelque chose qui est écrit, quoi. Ouais, voilà, d'accord, voilà. Ok. De la danse et des arts plastiques avec Homme. Et là, il sera question, comme le dit si bien notre ami Cabrel.
C'est une question d'équilibre.
Ah oui.
Ça sera une question d'équilibre.
Ah, c'est exactement ça, ouais, le spectacle Home, puisque c'est un danseur acrobate qui passe à peu près 50 minutes en dansant, en faisant des mouvements, etc., à monter un mobile de 8 mètres de diamètre,
un
mobile
un qui est fait
de cordes, de boules de bois, de fer, etc., avec une comédienne qui commande tous les objets, toute la matière qu'il utilise. Il parle évidemment d'équilibre, l'équilibre de son propre corps, l'équilibre du mobile qui est en train de monter. Et le spectateur, c'est vrai, d'abord, c'est très beau plastiquement.
Ah, oui.
On est un peu inquiet de savoir si ce mobile
est-ce que
va
ça
tenir.
Va
parce que le moindre vent, on peut le faire tomber.
J'ai déjà vu ça, c'est impressionnant.
Ouais, c'est très très beau et voilà, ça fait partie, tu vois, des choses un peu hybrides qu'on aime bien mettre entre cirque, danse et art plastique. Et
attention les enfants, c'est pas mobile, petit mobile, hein, c'est mobile.
Non,
hein.
C'est 8 mètres de diamètre, voilà, puis en bas de la cathédrale, ça va être beau sur l'esplanade de la cathédrale, ça va être assez magique.
Les leçons impertinentes de Zou. Alors j'ai vu qu'il y avait
quatre passages,
enfin quatre leçons, hein, plus exactement, différentes pour ce spectacle. Alors, en général, c'est à partir de 10 ans. Sauf pour la quatrième leçon, interdit au moins de 16 ans.
Oui.
Ne serait-il pas question d'un peu de sexe?
Alors ça, c'est toutes les leçons impertinentes de Zou, ça parle que de sexe, enfin de sexualité en tout cas, et d'amour. Et franchement, Maëlle Mahy, c'est une clown, hein, c'est une clown comédienne qui s'empare de ces sujets avec toutes les hypocrisies qu'on peut avoir sur notre propre sexualité, le rapport au corps, etc. Donc il y a une conférence qui s'appelle, enfin une leçon qui s'appelle L'amour en mots, l'autre qui s'appelle Moustache, Rencontre, je sais plus bien, tu dois avoir le titre, un autre, je me rappelle plus, là je l'ai fait sous le nez, une autre moustache. Ça s'appelle la philamatologie. Elle nous raconte l'histoire du baiser à travers les époques et les périodes. Enfin voilà un truc. Et ceci est mon corps manger. Ceci est mon corps, mangez-le. En gros. Et c'est génial parce que c'est à la fois entre une érudition, on apprend plein de choses sur l'histoire de la sexualité, l'amour, nos petites hypocrisies, nos petites gênes, etc. Et en même temps, c'est très très drôle, c'est une façon, une professeure en fait, c'est comme une, elle nous donne des leçons, leçons pertinentes et c'est débordement maîtrisé.
Est-ce qu'elle donne des cours particuliers?
Tu crois pas si bien dire, Jean, parce qu'en fait elle peut aller jusqu'à l'exercice pratique du baiser, par exemple le baser français avec la langue, ben voilà, il y a peut-être des candidats. Bon, je crois que le pass, on va voir. Mais...
Alors, la leçon 2, le titre, c'est Drague, consentement et Monsieur Moustache.
Et Monsieur Moustache,
voilà. Absolument.
Tout le rapport à la drague, le harcèlement, donc.
C'est pour les jeunes, ça. Parce que les vieux, dis donc, on va être mal.
Ah, non, c'est vraiment pour tout âge.
Non, c'est pas ça, c'est pour le baiser, parce qu'on mange beaucoup aillé.
Ah oui, bon, écoute.
C'est un condiment de longévité,
Elle va choisir, elle choisira. Non, c'est formidable. Moi, j'adore ces spectacles où on apprend plein de choses et en même temps, on rigole, parce que c'est fait pour ça, c'est une clown, hein, au départ.
Est-ce qu'elle a un nez rouge, non?
Non, pas de nez rouge.
Non.
Non, c'est vraiment une professeure. Tu vois, tu serais dans la salle, dans la classe, elle dit asseyez-vous, tout le monde est prêt, et elle commence
Tu sais, c'est comme quand, dans les années 60-70, ça commençait à poindre au niveau des cours, je sais pas si vous en avez eu, les cours d'éducation sexuelle à l'école. Vous en avez pas eu, les enfants?
Ah, ben, moi j'ai pris sur le tas, moi.
Moi, j'ai, ah, mais si. Moi, j'ai.
Nous, on était en live.
En live, oui.
J'ai eu dans mon école des professeurs qui sont venus exceptionnellement. Tout nous nu. Avaient, non, absolument, non. Ils étaient venus nous donner des cours d'éducation sexuelle. On n'en a pas eu 36. On en a eu quelques-uns. Et c'était des personnes étrangères à l'école qui venaient pour nous apprendre.
Comment ils vont faire dans le spectacle, là? Puisque tu as dit qu'il y a une partie qui était interdite aux moins de 16 ans.
Ben en fait,
on fait sortir les moins de 16 ans.
Non, ben c'est dehors. Nous, on le conseille, on l'a mis, tu vois, à partir de 16 ans. Donc a priori, les familles vont pas venir avec des gamins de 8-10 ans. Ah. Après, c'est à partir du temps, il y a rien de choquant. Après, si tu commences à aborder le corps de manière un peu plus intime, bon, pour les petits, c'est pas forcément. Mais il y a rien de vulgaire, il y a rien de choquant.
Oui,
c'est des très beaux textes, mais bon, c'est simplement pour la compréhension.
Quand même, il y a un truc. Je pose une question. Ils seront autant hypocrites que les autres. Et...
Ouais. La grainetterie des mots, ça c'est la suite. Alors là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir enrichir notre vocabulaire, apprendre des tas de nouveaux mots. Aïe. Et c'est pas un mal parce que tu en parlais hein, à l'instant, Jeannot. Savez-vous combien de mots dans la langue française, vocabulaire courant?
Il a 1800
ans, non? Non, c'est beaucoup plus.
La maîtrise.
30 000. Il y a 30 000 mots. Combien on utilise pour s'exprimer, nous? Entre 600 et 1000.
Ah, d'accord.
Et il faut savoir que pour l'essentiel... Il faut savoir que pour l'essentiel, avec 300, on s'en sort. Voilà. Nonobstant, la richesse de notre langue. Je l'ai placé là, exprès, parce qu'il y avait donc les petits exemples de mots que nous allons apprendre.
Bilvesé ou coxigru, voilà.
Ah, coxigru, j'aime beaucoup. Mais nonobstant, c'est un mot que j'adore.
Ouais, c'est très beau.
C'est comme intrinsèquement. Il y a des mots comme ça.
Qu'on dit pas souvent.
Qu'on dit pas, c'est difficile de placer dans les conversations.
Qu'on dit pas, parce qu'ils sont durs à dire, quand même. Intrinsèquement,
Et ils ont surtout une définition précise dans un contexte.
Ah, ben, bien sûr.
Voilà, donc le problème, c'est que si on n'est pas
si tu la connais
contexte,
pas,
tu fais une erreur.
Mais là,
oui, en même temps, si tu réfléchis, tu peux avoir plein de vocabulaire de synonymes. Tu pourrais les employer. On les emploie pas parce qu'on emploie toujours les mêmes finalement.
Il m'embrouille.
Non, c'est important. Tu as raison.
Mais que tu connais en plus. Mais tu vois.
D'où l'importance de la lecture. D'où l'importance de la lecture, de découvrir des mots et de ne pas avoir honte d'aller dans un dico ou sur Wiki.
Je suis Baudor, je subsume ou je suppute.
Oui, ben voilà. Non, mais ça, c'est des mots qui sont sympas. Moi, suppute, j'aime bien. C'est compuissant.
Compuissant. Et oui, ben la grainetterie des mots, c'est exactement ce que nous propose Johan Charvel, cet acteur. C'est une carriole, comme il y aurait une carriole de petits sachets avec des graines dedans, sauf que c'est pas des graines, c'est des mots.
Et on pioche. Et
donc, vous piochez, il vous en parle, il demande quel genre de mots. Et on vous remet une petite enveloppe, et il y a plein de mots à l'intérieur. Et l'idée, c'est que les gens s'habituent à ces mots-là, les collent sur leur frigo pour les employer dans leur vocabulaire de tous les jours. Et c'est une espèce de manière d'enrichir sa langue, son vocabulaire tout en manière ludique.
Un exemple, au lieu de dire la fleur est éclose, je peux dire l'anthère du phanérogame est arrivé à déhiscence.
Oui, non, mais là c'est un peu compliqué, Jeannot. Ouais.
Faut toujours que tu compliques les choses, Jeannot.
Quand tu fais la cour à quelqu'un, à une jeune fille, tu dis voilà.
Ah, mais
l'anthère du phanérogame est arrivé à déhiscence.
C'est sûr.
Bon, on a la chance parce que là c'est pas le latin. Hein.
Ah oui, t'aurais pu nous le sortir en latin, oui, absolument. Et on n'oublie pas que la langue française est certainement une des plus riches.
Oui, certainement.
Donc, la grainetterie des mots, il faudra pas le rater.
C'est bien ça aussi.
Ah ouais?
Alors, on continue avec... Le thème de l'homosexualité au cœur d'un des spectacles.
Ouais.
Alors, un petit son. Mmh. Allez, j'ai un petit son. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Alors, je ne sais pas, vous l'avez certainement dû le voir, j'ai pris un coming out connu.
Ah oui, oui.
Dans un film.
Ah.
Les Bronzés.
Ah oui.
Numéro 3, où Gérard Jugnot apprend que son fils va se paxer avec un garçon. Et donc, voilà ce que ça donne.
Papa, maman, Marine, je sais que l'endroit est un peu mal choisi. Papa, j'ai essayé plusieurs fois de te faire comprendre. Mais t'as jamais voulu m'entendre. Donc je profite de cette réunion presque familiale pour t'annoncer que la personne avec laquelle je vais vivre et que j'aime depuis plus de 2 ans, c'est Guy. Et que nous avons décidé de nous paxer.
Je comprends rien à vos histoires. Il y a un problème à la boîte ou pas, Guy?
Non, monsieur, il n'y a aucun problème dans la boîte.
La combinaison du crâne.
Ça va bien,
mais lâchez-moi! Écoutez-moi
vraiment dire une bonne chose. Moi vivant.
Ah merde, il a fait une syncope.
J'étais sûr qu'il réagirait comme un con.
Voilà, Josiane Balasco qui termine en disant « J'étais sûr qu'il réagirait comme un con ». Donc, c'est un des thèmes qu'on abordera. Ne le dis surtout pas, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est un très beau travail que j'ai vu sur Très Fin, Très Sensible, qui effectivement parle de l'homosexualité, qui est une vraie autofiction du comédien qui s'appelle Stéphane. Et qu'en fait, il ne le dit surtout pas. En fait, c'est un début de phrase. C'est la réponse
c'est
sa mère quand il annonce qu'il aime les garçons, qui lui dit « Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter ».
D'où l'exemple de cet extrait que je voulais vous faire.
Voilà.
C'est plutôt thérapeutique, c'est-à-dire c'est destiné aux gens qui effectivement sont dans cette situation qui se veut honorable, puisque par définition les mœurs sont beaucoup évoluées et qui ont besoin d'éléments de langage pour s'exprimer et se libérer d'un poids, le poids de la pesanteur sociologique qui empêche aux gens de déclarer leur homosexualité. Voilà,
c'est ce que c'est surtout la peur là du regard de l'autre et surtout de ses proches.
Tout à fait. Oui, de sa famille, de son entourage, mais surtout en fait ce qui ressort de ce spectacle, voilà, c'est l'amour en fait. C'est, on peut aimer quelqu'un, c'est vraiment l'amour et c'est extrêmement sensible, c'est même drôle, puisqu'en fait, Stéphane a décidé de faire ce spectacle 15 ans après, hein, parce que c'est des choses, il a vécu des choses difficiles, mais il a vécu des très très belles choses. Donc, c'est une manière d'aborder l'homosexualité de manière assez tendre, assez simple, en fait, et sans absolument aucune polémique. À partir du moment où on parle d'amour, enfin voilà, ça interpelle tout le monde, voilà. Et puis l'amour est libre et tant mieux si les gens sont heureux, quoi. Enfin,
on est en 2021. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours un sujet grave, tabou, important, qui divise encore une utilité du théâtre.
Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on s'en parle des choses de société d'aujourd'hui. Bah c'est voilà. Et puis je pense, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est que c'est des thèmes qui sont pas tant abordés au théâtre et même dans les spectacles en salle, et que les mettre en spectacle de rue, puisque je l'ai vu en spectacle de rue, hein, moi. C'est pas un spectacle qu'on a mis dehors, c'est quelqu'un qui l'a présenté au Festival de Rennes, j'ai pu le voir. Et ben, aborder ce thème pour un public large, évidemment, c'est une façon de peut-être de parler simplement des choses et puis de décoincer les choses aussi, peut-être.
Un sport qui est bien connu en ce moment qui passe, qui est récurrent à la SNCF.
Ah. Ouais.
Et moi, je trouve qu'il est vachement bien fait.
En tous les cas, moi, j'ai vécu ça personnellement. Où j'ai, un des plus beaux jours de ma vie. Je le dis à l'antenne, c'est le jour du mariage de ma fille, qui s'est mariée avec une femme.
D'accord.
Et où j'ai découvert, parce que, en plus, il y avait à ce mariage, bien sûr, la famille des deux côtés, il y avait une super ambiance, mais il y avait aussi tout, plein de couples.
D'accord, bah oui.
Hein? Et cette journée a été pour moi mémorable, quoi. Mm-hmm. Et je me suis, et quand elle me l'a annoncé, parce que forcément, j'étais un peu dans la situation.
tu l'as sauté dessus?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout, je lui ai dit une chose simple, je lui ai dit « Moi, pour moi, ce qui est plus important, c'est le bonheur.
Ben oui.
Le reste,
c'est ça.
On s'en fout. » Et franchement, voilà, moi je fais part de mon témoignage, hein, parce qu'on est tous plus ou moins touchés. Je veux dire, toucher, le mot est un peu fort, parce que pour moi, c'est pas un problème, quoi.
Oui,
c'est un non-problème.
Ça peut l'être pour pas mal de gens, puisqu'il y a même des gamins qui sont totalement bannis de leur famille.
Ah, ils sont éjectés.
Les parents chassent les enfants.
Ils sont chassés.
Donc voilà, c'est une façon peut-être de dire à peut-être qu'il y a des homosexuels qui seront dans la foule, qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à leur dire, peut-être les aider à faire le pas, ce coming out, et puis avoir pour les autres qui sont hétéros, enfin on s'en fout, à la limite, un autre regard, peut-être un regard plus doux, conciliant, plus compréhensif.
Je suis plus tolérant maintenant.
C'est bien, Jeannot.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est l'amour. On est frappé par celui-là ou celle-là. Mm-hmm. Et pour le coup, c'est vraiment la chose. Moi, comme Jeannot, j'ai évolué. Et ce qui m'a fait accepter cette situation, c'est le terme amour. On peut aimer effectivement son semblable.
Bah oui, bien sûr.
Et alors, expliquer aux gens que c'est pas les homosexuels.
C'est pas une tare, c'est pas une maladie.
C'est pas une tare.
Quoi.
Ils sont homosexuels parce qu'ils ont une orientation sexuelle qui va vers son propre sexe, mais c'est pas, ils le font pas esprit. Je sais pas comment le dire.
Oui,
quoi.
Non,
c'est pas un choix.
C'est pas de la perversion.
C'est pas de la perversion
naturelle, voilà. Ouais.
Voilà. Je crois que vraiment il faut en parler de ça parce que il faut sortir de ce tabou. Quoi.
Non. Et puis je rajouterais quand même, Thierry, pour une chose, parce que donc on parle de thème de l'homosexualité. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'à un moment donné, l'objet artistique, la forme artistique prenne le dessus. Mmh. J'ai pas pris ce thème pour aborder ce thème, forcément.
Oui.
C'est qu'en fait, je vois un très beau spectacle, très fin, très sensible, très tendre, et je me dis, ça va interpeller les gens, et c'est d'abord ça qui m'intéresse, évidemment.
Ouais, c'est une expression, effectivement, tout à fait particulière sur la sensibilité et l'émotion.
Exactement.
Et c'est vrai.
Exactement.
Ouais, moi, la chance que j'ai eue, en fait, c'est de ne pas avoir à évoluer sur le sujet, puisque mon premier job à 18 ans, c'était disque jockey dans une boîte gay. Donc, à partir de là, si tu veux,
tu t'es habitué très rapidement.
Voilà. Oui, donc je n'ai absolument jamais
Et tu t'es aperçu rapidement que ces gens-là, c'était des gens comme les autres.
Ses copains.
On t'a dit si tu es gay, ridon.
Voilà, absolument. Autre spectacle. Autre spectacle.
Zorro. Ça change de Zemmour, hein, c'est Zorro.
Oui, oui, c'est Zorro, c'est le vrai. Alors Zorro ?
Eh ben ouais, super. Ce qui est marrant, c'est que tu mets cet extrait-là, tout le monde le connaît, toutes les générations
incontournables.
Se sont identifiées à Zorro.
Don Diego de la Vega.
Et moi, mais je me suis surpris à voir encore des épisodes de Zorro il y a 5-6 ans, parce que voilà, c'était un espèce de... Et là, Zorro, c'est une compagnie, c'est le Cirque Rouage qui s'en empare. Et ce qui est très intéressant, c'est un musicien en live et puis un comédien qui raconte l'histoire de deux enfants, en fait, un petit qui vit Zorro, qui respire Zorro, qui dort avec son masque de Zorro, sa cape, et puis son plus grand frère qui finalement a découvert une petite copine, donc le super-héros Zorro, ça commence à passer un petit peu, et donc c'est toute l'importance pour les enfants de s'identifier à un super-héros, quel qu'il soit, Zorro étant...
Ça aurait pu être Superman, Spider-Man...
Oui, exactement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fin, en fait, ce que ça dit, c'est que le gamin, il découvre qu'il peut être le héros, le super-héros de sa propre vie, lui-même. C'est-à-dire, voilà, ouais. Ça l'aide à grandir, en fait, simplement, ça l'aide à s'identifier. Puis à un moment donné, c'est à lui de prendre la cape et le masque et devenir Zorro lui-même, en gros.
Tous les spectacles ont un message, de toute façon.
Oui, j'essaye. Tu sais, il faut qu'il y ait du sens, parce que tu vois, on parlait de divertissement. Moi, je pense qu'on peut se divertir, s'amuser beaucoup.
Intelligemment.
Et encore plus quand c'est intelligent et que ça a du sens. Donc voilà, évidemment. Et puis les compagnies, moi, je suis content qu'ils ne fassent pas que du comment on dit. Nous, on a une expérience, c'est mon cul sur la commode. C'est-à-dire le truc qui sert à rien.
C'est une chanson, ça, dans les années 30 ou 40.
Tu le vois, tu passes pas un mauvais moment, puis le lendemain, tu l'as complètement oublié. Ouais, ouais. C'est pas très intéressant.
Et on va terminer avec un spectacle. Alors, celui-là, je l'ai gardé pour la fin. Spectacle politique, tu me dis si j'ai bien fait de le dire ou pas. Ou bien d'actualité, une Iranienne exilée en France à 6 ans après la Révolution. Et le tiraillement entre son pays de naissance et son pays d'accueil. Voilà, encore un sujet, on ne peut plus, d'actualité sur le déracinement. N'oublions pas que beaucoup de migrants qui débarquent chez nous en ce moment auraient largement préféré rester chez eux si ça s'était produit. Enfin, s'il y avait surtout rien eu chez eux, tout simplement.
On peut dire que c'est politique, mais c'est surtout une plongée intime dans ce que peut être l'exil pour les personnes. En fait, c'est le Béga de théâtre qu'on aime beaucoup, qu'on a reçu plusieurs fois dans nos saisons. Une compagnie du 04, d'ailleurs, repéré, conventionné, enfin, déjà important, qui ont une capacité à amener le texte dans l'espace public de manière assez incroyable, parce qu'ils ont des systèmes sonores totalement immersifs, le public se déplace avec des petites mallettes qui transportent le son, absolument nickel. Et là, c'est d'après un texte qui s'appelle Marx et la poupée de Mariam Majidi, qui est donc cette Iranienne, qui raconte sa propre histoire, son départ d'Iran après la révolution iranienne, où elle a dû quitter en hâte, comme beaucoup de familles iraniennes, le pays. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire l'exil de l'intérieur? Se confronter à un pays dont on ne parle pas la langue, les mœurs différentes, la nourriture n'est pas du tout la même, cette espèce de nostalgie de son enfance en Iran. Enfin, voilà, l'exil, on est au cœur de l'exil de manière tout à fait intime et c'est très beau, en fait. Et puis, même cette personne qui dit, moi j'aimerais bien revenir, en fait elle est pas partie parce qu'elle voulait partir en disant c'est mieux en France, elle aurait préféré rester chez elle, mais voilà, il y a des fois qu'il y a des choses qui nous poussent et je t'avoue que si on y réfléchit tous, se dire qu'un jour on nous oblige à partir de notre pays, la France, waouh, ça peut être très très compliqué.
Je pense que tous ceux qui sont contre cette idée de recevoir les gens ici devraient un jour se dire tiens, et si c'était
ça
moi,
ça peut nous arriver, enfin ça pourrait nous arriver,
et si c'était
ça nous arrivait, on serait content qu'il y ait quand même des bras ouverts. Et puis de toute façon, recevoir les cultures des autres, les visions du monde des autres, ça ne peut être qu'un enrichissement. Enfin, on le sait, l'autre, l'altérité est hyper importante. Sinon, on se recroqueville et on devient con. On va dire ça comme
on
ça.
On va terminer l'émission avec...
C'est Kavanagh qui avait écrit « Le singe devient con ».
Ouais. Bah oui, c'est ça.
C'est ça.
On va terminer l'émission avec... un sujet un peu culture quand même, qui n'a plus rien à voir avec le spectacle et Tous dehors qui va débuter vendredi jusqu'à dimanche. Non, avec la statue de Napoléon. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, ça se passe du côté de Rouen. Le maire de Rouen qui souhaite donc poser un débat après avoir avancé l'idée de déplacer la statue de Napoléon de la place de l'Hôtel de Ville qui est là depuis... X années, et l'a remplacé par la statue de Gisèle Halimi. Alors, la statue de Napoléon a été délogée de son socle. Pourquoi ? depuis un an à peu près, parce que elle a été rénovée. Et en fait, il s'est dit, ben, tout compte fait, au lieu de remettre l'empereur là, on va mettre une statue de Gisèle Halimi et l'empereur, on le mettra ailleurs. Donc, je voulais avoir un peu votre sentiment, parce que nous, on est quand même proche de Napoléon ici, hein, la route Napoléon, vous savez, hein, est importante pour nous. Ben, je voulais un peu avoir, pourquoi est-on obligé de confronter deux choses complètement différentes, d'un côté Napoléon, l'empereur, et de l'autre Gisèle Halimi? Est-ce qu'il n'y aurait pas été plus intelligent de remettre Napoléon là où il est et puis de faire une place pour Gisèle Halimi? Hein, le sujet, c'est pas de dire qu'on ne veut pas Gisèle Halimi, hein, c'est ce que les Rouennais disent en général. Hein, bon, ils aimeraient bien retrouver leur Napoléon là. Et puis Gisèle Halimi peut-être ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben, pour moi, je partage effectivement ta réflexion. C'est peut-être mieux de créer un contexte et un espace dédié à Madame
Gisèle Halimi.
Gisèle, voilà. Et Napoléon, bon, avec le phénomène historique, avec plein de choses, mais garder aussi ses valeurs. Donc, même si je suis pas à 100% sur pour Napoléon,
parce que Napoléon, il paraît qu'il a fait des trucs pas très bien non plus. Oui, hein, enfin, c'est notre, ça fait partie de
notre histoire,
voilà. Notre culture aussi. Exactement. Quelque part.
Donc, aujourd'hui, est-ce que ce qu'on fait, les décisions qu'on prend, est-ce qu'elles sont bonnes pour demain? Je veux dire, il y a rien de moins sûr.
Ouais, moi, à mon avis, très honnêtement, je serais maire de Rouen, je ne me lancerais pas dans un débat de ce type-là.
Il a été démocratique, puisqu'il a laissé un vote en ligne.
Oui, il y a un vote, il y a un vote.
Bon, moi je ne ferais pas ce débat-là, parce que c'est un débat qui
déboulonner, c'est pas bien, hein, en général, c'est pas bien.
Moi, je le sens mal. C'est l'histoire, on ne va pas déboulonner notre histoire. Aujourd'hui, on est la France telle qu'on est, on est une république, une démocratie, on peut la critiquer. Il n'empêche qu'on a encore la liberté d'expression, enfin, j'espère qu'on va la conserver.
La preuve, regarde.
Voilà, et j'ai la liberté d'expression, puis je m'exprime actuellement à la radio. Donc, c'est tout ça, la France. Ouais. La France, on en est là aujourd'hui parce qu'il y a eu toute cette histoire. Bien sûr. Bon, lancer un débat comme ça, je trouve que c'est un débat inutile. Par contre, lancer un débat sur Gisèle Halimi, ce qu'elle a été, faire un travail de recherche sur elle, il s'agit pas de mettre une statue au milieu d'une place. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est autour, sur le féminisme, tout ce qu'elle a apporté. Voilà.
Mais ce qui est dommage, Philippe, c'est d'opposer Napoléon et Gisèle Halimi. Pourquoi l'opposer?
Oui, je suis d'accord. Après, ce que je trouve le seul intérêt de ce genre de moi, je suis d'accord, hein, déboulonner, ça rime à rien si c'est déboulonner pour déboulonner. Oui, et surtout, ça oppose ce que tu disais. Je trouve que ça oppose deux personnalités qui n'ont rien à voir dans l'histoire, et qui peuvent être importantes d'un côté et importantes de l'autre. Enfin, voilà. Après, on peut avoir ses préférences. Non, mais ce qui est intéressant, ça provoque le débat. C'est-à-dire que, si tu veux, d'un côté, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans les discussions, c'est de pas encenser Napoléon pour tous ses bons côtés. Ça a quand même été un dictateur, empereur, enfin, tu vois qu'il y a, donc il y a aussi des mauvais côtés, mais après la solution c'est pas de déboulonner, c'est de faire comprendre que effectivement l'histoire n'est pas fait que, tu vois, c'est une façon de raconter l'histoire. Moi j'ai vu un spectacle cet été au Festival d'Avignon où c'est le récit, qu'est-ce qu'on fait du récit national, tu vois, comment on remplit notre récit national, qui remplit ce récit national, qu'est-ce qui fait une nation, qu'est-ce qui nous réunit si tu veux autour d'une histoire. Et c'est bien quand même que cette histoire soit juste avec tous les versants possibles, imaginables.
Voilà. On a eu l'exemple avec les Harkis, là, cette semaine.
Oui, voilà, par exemple.
Voilà. Exactement. Donc, on n'a pas que des bons côtés, mais on doit les accepter.
Exactement. Je pense qu'en tous les cas, c'est bien que les gens le voilà.
Si j'étais à la place du maire de Rouen, je créerais un espace spécial pour Madame Halimi, qui est tout à fait remarquable. Et en laissant Napoléon là où il est pour les gens qui, parce que finalement les places très souvent sont identifiées avec les statues.
Oui, et puis c'est là, c'est l'histoire.
Oui, voilà.
Nous avec le baron de la Doucette, bon, si un jour nous nous déplaçons, on sera malheureux. La personne ne sait qui c'était le baron de la Doucette.
On ne sait même pas qui c'est la Doucette.
Préfet en 1804.
Ah ben voilà.
Mais c'est pour ça qu'on l'appelle Capitale Douce. Ouais. La Doucette, capitale
douce. La Doucette.
C'est lui qui a initié les premières fouilles à la bâtiment Saléon en 1804.
Ah. Oui. C'est toujours plaisant d'avoir Jeannot dans une émission. C'est une culture vivante. Voilà, la culture vivante avec le spectacle vivant.
On a bien fait de l'attendre.
Ah oui. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va refermer ce Coq à l'âne. Merci Philippe.
Merci et à vous.
Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit plot total de tout ce qui va se passer. Hein. C'est pas mal. Hein.
Ouais, il y a encore plein de spectacles dont on n'a pas parlé. Les surgissements du centaure, les chevaux qui vont traverser la ville. Mais il y a plein de choses.
Voilà.
Allez sur le site de la passerelle pour voir toutes les informations.
Voilà. N'hésitez pas.
Tu es toujours aussi intéressant, c'est bien.
Merci Jean. Bah, j'essaie. Tu sais, on est passionné ou on ne l'est pas. Donc.
Cette émission, donc nous sommes vendredi soir. Oui, c'est compliqué, on enregistre jeudi, on la diffuse vendredi. Vous pourrez aussi l'écouter samedi midi et dimanche matin. Voilà.
Oh là là.
Ah bah oui, non mais on a mis on a mis les petits plats dans les grands, histoire qu'Alpin apporte sa contribution à ces trois jours exceptionnels. Merci encore Philippe.
Merci beaucoup.
À bientôt et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao.